Bonjour à tous, il est 15h ici à Paris, une heure de moins en temps universel.
Karine Bellicha.
À la une, l'aide internationale commence à être acheminée vers la Birmanie. Les secouristes locaux sont désemparés face à l'ampleur de la catastrophe après le séisme. Plus de 1600 morts, selon un bilan encore très provisoire, alors que le compte à rebours est enclenché pour retrouver des survivants dans les décombres. Des centaines de milliers de personnes, une marée humaine, drapeau turc à la main, réunis sur la rive asiatique d'Istanbul à l'appel de l'opposition pour protester contre la politique répressive du pouvoir. Paris réussit pour le CHP qui demande toujours la libération de son leader emprisonné depuis 10 jours, principal opposant au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. Et puis à Gaza, c'est le désespoir qui domine depuis la reprise des frappes israéliennes. Les habitants de l'enclave palestinienne vivent au jour le jour et l'aide humanitaire va bientôt manquer. Témoignage dans ce journal. Les secouristes demandent appel à l'aide. Les dégâts sont considérables dans la deuxième ville de Birmanie après le séisme et les secours travaillent toujours à main nue, tentant de retrouver des survivants dans des conditions de précarité totale. Une femme vient d'être sortie vivante des décombres d'un immeuble de la ville, mais pour combien d'autres encore coincés en dessous? Le bilan du séisme s'établit à plus de 1600 morts, 2000 blessés, mais il reste très provisoire. Le système de communication est largement endommagé. La collecte d'informations sur le terrain bien difficile fait rare devant l'ampleur de la catastrophe. La junte au pouvoir a lancé un appel à l'aide internationale et la tâche des équipes venues de l'étranger est immense. Carole Izou.
Ce sont d'abord les puissances asiatiques qui ont répondu à cet appel inédit à l'aide internationale lancé par le chef de la junte militaire, le général Min Aung Hlaing. Au premier rang desquels on trouve bien sûr la Chine qui promet une aide de 12,7 milliards d'euros et a déjà envoyé sur place une équipe de 82 secouristes. L'Inde a elle aussi lancé son opération Brahma en expédiant plusieurs avions chargés de 15 tonnes de matériel de première nécessité, couvertures, produits d'hygiène, tentes, nourriture. Assez loin derrière, l'Union européenne s'engage sur 2,5 millions d'euros d'aide d'urgence. Donald Trump assure que les États-Unis vont aider car la situation est terrible, sans pour l'instant s'engager sur un montant précis, alors que les effets des coupes budgétaires de l'aide humanitaire en Birmanie commençaient déjà à se faire sentir avant le tremblement de terre. Des annonces qui reflètent les équilibres géopolitiques de la région où la Chine et l'Inde s'affirment désormais comme les puissances dominantes.
Carole Izou du service international de RFI. La mobilisation a été massive à Istanbul. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur la rive asiatique de la grande ville turque. Présenté comme un test pour l'opposition, le CHP, le parti d'Ikrem İmamoğlu, avait appelé à poursuivre la marche vers le pouvoir. Malgré la répression extrême et des centaines d'arrestations, l'interpellation du maire de la ville a mis le feu aux poudres il y a 10 jours alors qu'il s'apprêtait à annoncer sa candidature pour la présidentielle de 2028. Les manifestants se sont dispersés à présent. L'opposition appelle à rester mobilisée dans les prochaines semaines et entend toujours obtenir la libération d'Ikrem İmamoğlu. Face à la répression de plus en plus grande du pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, les pays européens réagissent à minima. Pour la France, par exemple, Emmanuel Macron s'est contenté de dénoncer cette semaine des atteintes et des agressions en Turquie qu'on ne peut que regretter. Aurélien Denisot, chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, estime que les Européens cherchent à ne pas se fâcher avec Ankara pour des raisons géopolitiques notamment.
Face à la crainte d'une espèce de condominium russo-américain que l'on pourrait voir se profiler à long terme, il y a l'idée que les Européens doivent essayer d'améliorer leurs relations avec d'autres partenaires, notamment les partenaires régionaux, et bien sûr la Turquie qui donne à la fois sur la mer Noire face à la Russie et sur le Moyen-Orient, est considéré comme un partenaire indispensable. Il y a aussi un effet de prévision des Européens que le régime Erdogan, pour l'instant, ne va pas s'effondrer, c'est-à-dire que le gouvernement du président turc garde toujours une base de soutien qui s'effrite progressivement, mais qui reste assez solide. Il pourrait perdre les prochaines élections, mais les prochaines élections ne sont pas prévues avant au moins 2027. Donc tous ces éléments, je pense, ont conduit les Européens à se dire que finalement, une critique trop directe de la répression menée par Recep Tayyip Erdogan n'amènerait pas forcément grand-chose.
Aurélien Denisot était interrogé par Marine de la Moissonnière. Au Proche-Orient, la trêve a été rompue depuis maintenant 10 jours à Gaza et l'ONU vient d'annoncer que ses stocks de nourriture ne pouvaient couvrir que les besoins des 2 semaines à venir. Depuis le 2 mars, les camions humanitaires n'entrent plus dans l'enclave palestinienne et la population désespère une vie au jour le jour, sans grand espoir. C'est ce qu'ont confié des habitants de Gaza à Amira Souilem, basée à Ramallah. On les écoute.
Iyad a pris l'habitude de nous laisser des notes vocales. Cet ingénieur, père de 4 enfants, s'inquiète pour eux, mais plus largement aussi pour tous les plus jeunes.
Nos enfants à Gaza vivent dans la peur constante. Les bruits des bombes sont devenus une partie de leur vie quotidienne. Quand ils entendent les explosions, ils sont submergés par la terreur et l'anxiété. Ils se mettent alors à pleurer, à trembler et à s'accrocher à leurs parents à la recherche de sécurité.
Il y a quelques jours, l'UNICEF a déclaré que Gaza était, je cite, « le seul exemple dans l'histoire moderne où tous les enfants d'une population ont besoin d'un soutien en santé mentale ». Iyad fait le même constat.
Les enfants apprennent tôt ce qu'est la perte, la pauvreté, le dénuement. Les familles font ce qu'elles peuvent pour les consoler, mais il n'y a pas de mots, de câlins qui puissent effacer les effets de la guerre sur leur cœur fragile. C'est une enfance volée.
Un autre Gazaoui, trop épuisé pour parler, nous a envoyé un texte dans lequel il exprime sa grande lassitude et l'impression que son peuple est devenu un troupeau que l'on déplace d'un endroit à un autre sans lui demander son avis. Un humanitaire qui a quitté Gaza hier craignait, lui, de ne pas être cru en rentrant en Europe quand il raconterait ce qu'il a vu sur place. Amira Souilem, Ramallah. RFI.
Face à la bronca, l'Académie des Oscars s'est excusée publiquement. Des centaines de professionnels d'Hollywood avaient dénoncé son manque de soutien envers Hamdan Balal après avoir reçu l'Oscar du meilleur documentaire début mars pour No Other Land, un long métrage sur la colonisation en Cisjordanie. Le réalisateur palestinien avait été attaqué par des colons en début de semaine, puis arrêté par les autorités israéliennes avant d'être libéré mardi. L'Académie des Oscars est d'abord restée silencieuse. Elle a ensuite publié un communiqué où elle condamnait la violence contre des artistes sans mentionner spécifiquement Hamdan Balal. Après une réunion de crise, elle a donc envoyé une lettre à ses membres pour rectifier sa position hier soir, présentant ses excuses et déclarant son soutien aux réalisateurs palestiniens. 8 mois après sa condamnation à 20 ans de prison, Moussa Dadis Camara a été gracié. À la tête de la Guinée entre 2008 et 2009, il avait été condamné en juillet dernier à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité après le massacre de 2009 au grand stade de Conakry. Au moins 156 personnes avaient été tuées, des centaines d'autres blessées dans la répression d'un rassemblement de l'opposition. Il est gracié pour des raisons de santé, selon un décret lu à la télévision nationale hier soir. Écoutez la réaction de maître Alpha Amadou Desba, l'avocat des victimes de ce massacre, joint au téléphone par Pierre Firsion.
Nous ne sommes pas surpris de ce décret de grâce, puisque depuis l'ouverture de ce procès, nous nous attendions à ce que de telles mesures soient prises pour conforter une certaine situation politique. Mais nous sommes quand même déçus que cela intervienne avant même que la cour d'appel ne se prononce sur le mérite du recours qui a été justement introduit par M. Moussa Dadis Camara. Donc on est assez déçus que cette décision intervienne avant qu'il y ait une décision définitive dans cette affaire.
Comment expliquez-vous cette décision ?
Je pense qu'il y a la volonté de ménager à la fois les victimes et aussi les auteurs de ces crimes sous l'autel de la politique. Je pense que cela a dû servir de motif. Donc, c'est des motifs que nous ne comprenons pas. En fait, cela renvoie au fait qu'on est en train de vouloir marchander les indemnisations et en même temps, on garantit l'impunité à ceux qui ont commis ces crimes au stade du 28 septembre.
Maître Alpha Amadou Desba, l'avocat des victimes de ce massacre et président de l'OGDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme, joint par Pierre Firsion. Copenhague ne digère pas la visite de J.D. Vance au Groenland et le fait savoir. Le ministre des Affaires étrangères dit ce matin ne pas apprécier le ton employé par les Américains. Ce n'est pas ainsi que l'on s'adresse à ses plus proches alliés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.